Bonjour et bienvenue sur La Voie Verte, le podcast qui vous accompagne sur le chemin d'une vie plus verte. Nous sommes Julie et Laetitia, les créatrices de ce podcast. Potager, plantes vertes, jardinage urbain, compost, cueillette sauvage. Dans chaque épisode, nous abordons un thème lié au monde végétal avec un ou une invitée. À travers ces interviews, nous vous donnons des conseils pratiques pour prendre soin de vos plantes et explorons ensemble le monde fascinant de la nature vivante. La Voie Verte est le podcast de Vert Magazine, le mag des néo-jardiniers, que nous avons fondé toutes les deux. Ce magazine papier indépendant est dédié au jardinage, aux plantes et à la nature et sort tous les trimestres. Pour en savoir plus, direction Vert Magazine, veirmagazine.com. Allez hop, c'est parti pour la classe verte! Bonjour tout le monde, ici Laetitia. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec Christophe Bernard, l'une des références nationales en matière de plantes médicinales. Passionné par les plantes, mais aussi par la transmission et la pédagogie, Christophe partage généreusement son savoir sur différentes plateformes. Un site qui contient des centaines de fiches plantes, une chaîne YouTube, un podcast, un compte Instagram, des formations, et sans oublier son livre, Le Grand Manuel pour fabriquer ses remèdes naturels. Et quand, après tout ça, il lui reste 5 minutes, eh bien, il répond à nos questions. Allez, on arrête là les présentations et on file l'écouter. Place à l'épisode. Bonjour Christophe.
Bonjour Laetitia.
Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cet épisode sur l'herboristerie et les plantes médicinales. Écoutez, on va faire classique. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Et puis au passage, peut-être que tu auras l'occasion de nous expliquer la différence entre un herbaliste et un herboriste.
Alors, je me présente, je vais te faire la version courte, parce qu'il y a une version longue aussi, et peut-être on en parlera un petit peu lors de cet épisode.
Ou la version moyenne.
ou la version moyenne, exactement. Écoute, moi je travaille dans le monde des plantes médicinales depuis maintenant une quinzaine d'années, et je pense avoir touché à peu près tous les métiers de la filière, soit d'une manière professionnelle, soit d'une manière un petit peu plus personnelle, depuis la cueillette jusqu'à la production, au jardin, jusqu'à la transformation et au conseil. Il y a deux parties que j'ai gardées au travers de ces 15 années. La première partie, c'est la partie conseil, parce que j'ai toujours estimé que pour pouvoir parler des propriétés médicinales des plantes, il fallait accompagner des gens qui ont certaines problématiques. Voilà, c'est ça qui nous donne beaucoup de profondeur et aussi beaucoup d'humilité, parce que peut-être on en parlera aujourd'hui, mais souvent dans les livres, on nous fait apparaître des choses comme très très simples et faciles, et comme on le sait en pratique, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et la deuxième partie qui m'a suivi depuis plusieurs années, c'est la partie enseignement. C'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup transmettre. Et aujourd'hui, je me considère, si je devais garder un mot, je dirais passeur d'informations. C'est un mot que j'aime beaucoup. J'aime pas le mot expert qui nous sépare, qui crée des scissions entre différents groupes. Ça me va pas du tout. Voilà, donc passeur d'informations sur les plantes médicinales, mais aussi, aussi praticien qui travaille avec des individus. Moi, j'ai toujours aimé garder cette globalité de toutes ces activités, parce que c'est ça qui m'a permis de faire de belles découvertes, hein, depuis avoir les mains à gratter la terre jusqu'à, voilà, être dans un petit laboratoire pour faire des macérations, bah, jusqu'à être en cabinet pour accompagner.
Et le terme un peu générique, ce serait herbaliste, parce que je crois que c'est celui-là que tu utilises sur...
Oui, que j'ai essayé d'utiliser. Alors, je pense qu'on s'est tous un peu cherché, parce que le terme herboriste, d'abord, comme tu le sais probablement, n'est plus autorisé, parce que le certificat a été supprimé pendant la Deuxième Guerre mondiale, et deuxièmement, ou juste après, je ne me souviens plus, enfin bref, voilà, c'était sous Pétain. Deuxièmement aussi, parce que chez nous en France, le terme herboriste fait souvent référence aux vendeurs de plantes. Donc on voit une personne dans une boutique, et moi j'aime beaucoup le terme herboriste comme utilisé au Québec, hein, chez nos amis québécois, parce que chez eux c'est un terme qui est beaucoup plus large et qui inclut vraiment toute la filière de métier. Ceci dit, moi quand j'ai débarqué en France en 2009, parce qu'avant j'ai vécu assez longtemps en Amérique du Nord, mais 2009, c'était le retour au pays. Et moi, mon titre, mes études, enfin une partie des études que j'ai fait aux États-Unis, mon titre, c'est herbaliste, mais sans le E à la fin, c'est herbalist. Donc, et même ces herbalistes cliniciens, alors tu imagines utiliser ce terme chez nous en France, c'est juste complètement hors de question. Donc j'ai gardé herbaliste parce que je pouvais pas m'appeler herboriste, alors personne connaissait. Il s'avère que en parallèle, l'école lyonnaise des plantes médicinales utilisait aussi le terme herbaliste avec un E à la fin. Voilà. Donc, quand tu vois le terme en France, c'est souvent que ce sont des gens qui sortent de l'école lyonnaise. Moi, c'était mon titre américain. Et puis finalement, aujourd'hui, on réfléchit à tout ça et on aime vraiment beaucoup le terme herboristerie parce que l'herboristerie, c'est notre passé, c'est notre tradition. Et donc, nous qui accompagnons les individus, on commence à s'appeler praticien en herboristerie. Et puis, si tu suis un petit peu les nouvelles du côté des producteurs, tu vois qu'il y a la Fédération des paysans, herboristes. Donc, ce terme herboriste, herboristerie, on aimerait quand même bien se le réapproprier parce qu'il y a une grosse tradition à laquelle nous sommes vraiment attachés.
D'accord. Tu as mentionné donc, que tu avais fait des études dans ce domaine. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et qu'est-ce qui s'est passé dans ces 15 dernières années où tu as découvert les plantes médicinales?
Ça commence aux États-Unis avec... moi, j'avais un job précédent qui n'avait absolument rien à voir avec les plantes médicinales. Donc, ça a été un petit peu pas une crise de milieu de vie parce que j'ai toujours aimé tout ce que j'ai fait, quoi. J'ai toujours aimé tous mes boulots. Ma passion initiale, c'est l'informatique. Moi, je suis un gros geek à la base. J'étais dans l'informatique pendant assez longtemps et j'ai adoré ça jusqu'au moment où j'ai découvert cet amour pour les plantes médicinales qui me reconnectait à mes racines quand j'étais gamin. Parce que j'ai eu la chance d'avoir une enfance très heureuse. Et puis, c'était une enfance qui s'est passée dans les collines provençales, entre le Vaucluse et les Alpes de Haute-Provence, où j'avais de la famille un peu partout, des grands-parents qui faisaient beaucoup d'activités en extérieur, qui ramassaient des champignons. On allait ramasser la mousse pour faire la crèche, on allait ramasser des vieilles branches. Mon grand-père faisait des tableaux de plantes séchées. On allait ramasser le thym, la lavande.
Enfin, ouais, tu as grandi vraiment en connexion avec la nature.
C'est ça. Et donc, moi, j'ai connu ça gamin, mais si tu veux, on n'en parlait pas. Personne n'était naturaliste, personne n'était botaniste. On n'en parlait pas, mais on faisait. On était tout le temps en train d'aller chercher un truc en nature. Et je pense que c'est revenu m'attraper à une période de ma vie un peu comme ça, sans crier gare. Et à ce moment-là, c'est comme si ça avait ouvert plein de tiroirs. Et je m'y suis replongé. Et typique de moi, moi, je fais tout en parallèle, quoi, d'une manière un peu intense, parfois un peu extrême, qui fait que je passe par ces cycles d'activité puis d'épuisement, mais bon, voilà, j'ai appris à me connaître, c'est comme ça que je fonctionne. En tout cas, j'ai très très vite commencé dans tout un tas de directions, aller chercher les plantes dans leur environnement naturel. Alors j'étais au sud de la Californie, à la frontière du Mexique, donc c'est une flore super intéressante, une flore désertique, avec une très forte influence des pays d'Amérique du Sud, d'un point de vue plante médicinale qui s'appelle Los Remedios. Donc, il y avait toute cette culture qui était super intéressante. Donc, aller chercher ces fameux remedios dans la nature, les transformer dans ma cuisine. Très rapidement, j'ai commencé à accompagner des gens. J'avais aussi des études en parallèle. Alors, j'ai étudié avec différents personnages américains qui sont plus ou moins connus parce qu'ils ont été un peu des pères fondateurs de l'herboristerie américaine. Et j'ai beaucoup appris avec eux.
Il y avait déjà quand même des sources d'infos, même si le sujet était peut-être un petit peu moins à la mode qu'aujourd'hui. Mais
Alors, il était très à la mode. Aux États-Unis, ils ont probablement une vingtaine d'années d'avance sur nous. Alors, pas dans la science, si tu veux. C'est pas une histoire de recherche scientifique sur les plantes. C'est une histoire de réappropriation du savoir par la population. Moi, j'ai plein de sujets qui me tiennent à cœur, mais la réappropriation du savoir, parce qu'il appartient à nous, hein, pas aux instances ni aux laboratoires de recherche, il appartient à nous. Donc, cette réappropriation aux États-Unis, elle s'est faite vers fin des années 60, début des années 70, alors que nous, elle a commencé à se faire beaucoup plus tard. Donc, si tu veux, là-bas, déjà, on est dans les années 2000 et y a énormément d'engouement pour les plantes. Il y a une diversité d'écoles et d'études qui est absolument incroyable, parce que les États-Unis, ça reste aussi un petit peu le melting pot, c'est-à-dire les endroits où les cultures de l'Est rencontrent les cultures de l'Ouest et du Nord et du Sud. Donc beaucoup, beaucoup d'enseignements différents. Et donc ça, moi, ça m'a permis de découvrir, d'abord d'apprendre une certaine pharmacopée, parce que la pharmacopée américaine, c'est pas la pharmacopée française et européenne. Et donc du coup, j'ai appris à pratiquer avec certaines plantes et certaines formes aussi, parce que les Américains sont très, très teinture, alcoolature, des formes un petit peu plus compactes, concentrées que nous. Et quand je suis revenu ici en France, fin 2009, j'ai replongé dans la tisane, l'infusion, et retombé amoureux de cette forme-là et découvrir que c'est une forme qui est incroyablement thérapeutique, incroyablement efficace aussi.
Ah, je savais pas qu'ils en utilisaient moins aux États-Unis, c'est un peu moins.
Mais ils sont pas très tisane. Ça n'a jamais fait partie vraiment, une forte partie de leur tradition. Je sais pas pourquoi exactement, parce que bon, à la base, il y a beaucoup d'influence européenne aussi, mais c'est pas resté dans les pratiques. Alors que chez nous, c'est la forme qui restait, quoi.
C'est ça, oui, la plus. Donc, de retour en France, tu découvres ou redécouvres la pharmacopée française, les codes d'utilisation peut-être un peu plus français, entre guillemets.
Ouais, c'est ça, et je me sens un peu
et
seul.
Tu continues à te former, ouais, et t'es peut-être un petit peu plus seul.
Ouais, fin 2009, je me sens un peu seul parce que je débarque et j'avais l'habitude de l'écosystème américain qui est très unifié avec beaucoup d'échanges et les gens du métier échangent énormément, sont très en contact. Donc moi, à l'heure actuelle, je suis toujours en contact avec des groupes d'échange. Et là, j'arrive en France et je trouve aucun groupe et j'ai l'impression que personne ne discute et je commence à contacter certaines personnes qui sont relativement visibles, on va dire, qui osent se montrer. Et on me ferme vite la porte parce qu'on se dit, c'est qui ce gars qui pose des tonnes de questions? Je me dis, ah, c'est génial, vous fabriquez, vous vendez des teintures. Je croyais qu'on n'avait pas le droit, si on n'était pas en laboratoire, est-ce que vous pouvez m'expliquer et tout? Et là, toutes les portes se ferment parce qu'on se dit, lui, c'est un gars de la DGCCRF. Je fais ce que je sais faire le mieux, c'est-à-dire je baisse la tête et je fonce. Et la première des choses que je fais fin 2009, c'est que je crée un blog parce que j'ai besoin de décharger tout ce bouillonnement dans ma tête sur du papier parce que voilà, moi je suis un geek à la base, donc faut que je pose à plat sous forme informatique. Donc je démarre un blog qui deviendra vraiment la fondation de toutes mes activités. Mais à la base, ce blog, c'est juste moi qui ai besoin de poser à plat tout ce que j'ai en tête, quoi. C'est mon bloc-notes à la base.
C'est alteaprovence.com. Bon, on remettra de toute façon les références dans la description de l'épisode. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est une sacrée mine d'infos. On va en reparler, mais y a de quoi faire sur ce blog. Pour en venir un peu aux plantes elles-mêmes, est-ce que tu peux nous expliquer pour toi qu'est-ce que tu entends sous le terme de plante médicinale ? Parce que finalement, c'est un terme générique, mais est-ce qu'il y a une sorte de liste officielle de critères de reconnaissance officielle pour les plantes médicinales ? Puisque finalement, on peut dire que toutes les plantes ont plus ou moins un effet sur notre corps. Peut-être pour certaines plantes, on ne le connaît pas encore, mais il existe, il reste à découvrir. Pour d'autres plantes, on connaît l'effet, mais peut-être il n'est pas notable, mais pour autant, il y en a un. Pour d'autres encore, c'est reconnu scientifiquement. Pour d'autres, c'est reconnu empiriquement. Enfin bref, il me semble qu'il y a plein de cas de figure. Donc, comment on fait un peu pour s'y retrouver et savoir qu'est-ce qui est une plante médicinale, qu'est-ce qui n'en est pas, qu'est-ce que toi, tu prends comme critère pour décider que cette plante-là, elle va figurer sur ton blog, par exemple, et puis celle-là, non.
Alors, moi, j'aime beaucoup deux sources déjà d'informations. J'aime beaucoup la tradition. En fait, moi, j'arrive dans un monde très, très scientifique. Et donc, au fil des années, ça commence avec énormément de dépendance, on va dire, sur la validation par des études. Et puis, au plus je pratique, au plus je découvre cette finesse de savoir de nos ancêtres, de la tradition, de ces vieux ouvrages. Et au plus le temps avance, au plus je me repose sur les deux pour arriver à ma position aujourd'hui qui est de plus me fier à la limite à la tradition, parce que pour moi la tradition c'est l'expérience de terrain. Et pour répondre à ta question, qu'est-ce qui fait qu'une plante a des propriétés thérapeutiques, eh ben, c'est qu'elle a été utilisée dans un contexte thérapeutique et qu'elle a montré une efficacité dans l'amélioration de la qualité de vie d'une personne. Le reste, c'est du blabla. Pour moi, continuer mon activité de praticien a toujours été tellement importante, c'est que tu lis les choses, tu les testes, ça ne fonctionne pas, tu commences à te dire pourquoi, à décortiquer, à soulever le capot et à voir que en fait la santé c'est quelque chose d'assez complexe qui est basé sur des grands piliers du bien-être et qu'il faut vraiment remettre en question toute l'hygiène de vie, parce que de dire si tu as des migraines, prends de la grande camomille, ça va avoir des résultats très très aléatoires. Mais je reviens à ta question quand même, c'est une question difficile et ça c'est une question qu'on m'avait jamais posée. Tu as des pharmacopées, c'est-à-dire une pharmacopée, c'est une liste de une liste officielle de plantes médicinales. Tu as des pharmacopées qui nous viennent de la tradition, c'est-à-dire que telle ou telle oseille était utilisée par nos ancêtres pour telle et telle application. On parlera de pharmacopée traditionnelle. Après, tu as des pharmacopées un petit peu plus scientifiques et même un petit peu plus d'un point de vue juridique, parce que tu vas avoir les listes A, les listes B, tu vois. Oui. Donc là, on rentre un peu dans la loi. Celles-ci peuvent être vendues en l'état, sans allégation, par des non-pharmaciens. Celles-ci doivent être vendues par des pharmaciens, enfin, etc., etc. Donc là, on rentre dans le réglementaire, mais...
Oui, petite parenthèse, on en a parlé de ces listes, de la législation autour de ces listes avec Lola Foss, qui est une paysanne herboriste qu'on a interviewée dans notre numéro 11 et qui nous explique un peu justement.
Et oui, c'est ça.
On a le droit de faire ou pas faire. Oui.
Mais je te dirais qu'au final, il faudrait qu'on puisse avoir une validation dans la pratique. Est-ce que cette plante est médicinale ou pas? Si elle est listée comme médicinale aujourd'hui, c'est que dans le passé, elle a fait du bien dans un contexte ou un autre. Est-ce qu'on peut confirmer ceci aujourd'hui? Et pour le faire, ben, il faut expérimenter avec.
Ok, non, mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer maintenant comment ça fonctionne, une plante médicinale? Si on prend comme point de comparaison le médicament, qui est un peu le point de référence classique qu'on va avoir, où on a dans un médicament en général une ou plusieurs molécules, mais assez restreintes, qui vont agir sur un symptôme particulier. Quelle est la différence avec une plante médicinale?
Ben, la différence est assez significative dans le sens où, si on regarde déjà d'un point de vue purement chimique, une plante, c'est plusieurs centaines de constituants. On en connaît en général une pincée. On en connaît une pincée dans notre recherche constante de trouver le constituant actif. Donc ça, c'est un petit peu une obsession du monde scientifique, pour de bonnes raisons. C'est parce que dans la pratique médicale, on doit se caler sur un modèle qui est prédictif et répétitif. Et pour ce faire, il faut qu'on arrive à s'aligner sur quelque chose de mesurable. C'est pour ça que le millepertuis va être standardisé en hypericine, ou parfois en hypericine et hyperforine, parce que ce sont deux actifs, parce qu'on a vu dans les études que la plante doit en partie uniquement ses propriétés à ces deux constituants. Ça permet à un médecin, par exemple, de doser. Après, voilà, on a fait des études sur le millepertuis, on a enlevé ces deux constituants, on s'aperçoit que ça fonctionne toujours très bien. Donc, une fois que tu commences à superposer ces dizaines et même ces centaines de constituants ensemble, eh ben, il faut accepter à un moment... Il y a un certain lâcher-prise qui s'opère. Il faut accepter qu'il y a une partie qui est prévisible et il y a une partie qui est imprévisible. Il y a une partie que tu connais et après tu commences à travailler avec une personne et il y a une partie, tu te dis, mais pourquoi, enfin, qu'est-ce qui se passe? Ça ne s'est pas écrit dans le livre. Pourquoi il y a ces réactions parfois un petit peu bizarres et inattendues? Parce que superpose cette grande complexité de la plante, du végétal, avec la grande complexité de l'humain, qui est nous-mêmes, et tu imagines toutes les intersections possibles et imaginables. Donc, bon, ça, c'est une vue
très... C'est cette complexité, voilà, déjà, peut-être une des grandes différences dans l'approche plante médicinale, c'est qu'on parle de quelque chose qui est beaucoup plus complexe, et donc avec, comme tu le disais, des effets peut-être plus aléatoires, plus difficiles à prévoir, plus difficiles à quantifier, forcément que...
Et ça, c'est une vue qui reste quand même assez scientifique-chimique. Après, il y a une vue un petit peu plus énergétique qui consiste à dire que la plante est un être vivant qui fonctionne, qui vibre d'une certaine manière. Et moi, j'ai des collègues qui travaillent avec de très, très faibles doses de plantes et qui obtiennent de bons résultats. Bon, ce n'est pas mon style de pratique, mais on voit bien qu'il y a quelque chose, il y a des choses qui se passent outre, au-delà des constituants.
Oui, c'est ça, c'est aussi une grande différence, on travaille avec du vivant, quoi.
Ouais, c'est ça, ou alors des fois, par exemple, voilà, on rentre dans un domaine un petit peu plus mystérieux, mais tu fais des méditations autour d'une plante, tu vas prendre un groupe de personnes, et tu vas prendre une plante que personne ne connaît, hein, une plante un petit peu obscure de la pharmacopée, et tu vas prendre 10-15 personnes, tu fais une méditation autour de la plante, et tu t'aperçois qu'en fait, tu arrives à dresser la fiche complète de cette plante. Enfin, c'est vraiment bluffant. Moi, j'ai assisté à ces cercles-là. Bon, c'est là où tu te dis, là encore, il faut lâcher prise, quoi. Voilà, moi qui viens du monde un peu voilà, cartésien, scientifique, voilà, à un moment, je lâche parce que je vois qu'il y a... Il y a bien plus que ce que les yeux et le microscope ne peuvent voir. Et c'est bien, c'est super. C'est la magie des plantes. Voilà.
Exactement. Et chacun, il trouve ce qu'il veut à son niveau d'interprétation. Quand on se renseigne sur une plante médicinale, on tombe souvent sur une liste très longue au niveau des bienfaits. Moi, ça m'a beaucoup dérouté au début de trouver des listes parfois de 2-3 lignes antidiurétiques, laxatifs, émollients, détoxifiants, expectorants, etc. On s'y perd un peu, on comprend pas comment une plante peut faire tout ça. Si moi mon problème c'est que je tousse, du coup qu'est-ce que je choisis dans toute cette liste de bienfaits? Enfin, voilà, est-ce que tu peux nous expliquer déjà pourquoi il y a autant de bienfaits pour une seule plante et comment on s'y retrouve?
Grande frustration que j'ai moi-même connue, c'est vrai. Eh bien, écoute, parce que il y a eu tellement d'influence et d'utilisation de traditions du monde autour d'une seule et même plante, d'expériences qu'on est arrivé à réunir au travers de différents ouvrages, si tu veux, que littéralement, si tu prends une plante comme l'angélique, archangélique ou la chélie millefeuille, tu as la tête qui tourne parce que du coup, la plante fait tellement de choses qu'au final, pour toi, elle ne fait rien. Elle ne fait rien parce que tu vas laisser tomber, tu ne vas pas arriver à y voir clair. Et c'est après, au travers de l'expérience, parce que tu commences par un endroit particulier, où souvent on va te prendre par la main, on va te guider, tu vois, on va te dire, oui, mais la chélie millefeuille, c'est une décongestionnante remarquable, c'est une plante du sang, elle fait circuler, dès qu'il y a stagnation, elle va venir dissoudre cette stagnation. Donc, parfois, on te prend un petit peu par la main pour te dire ça. Et donc, tu vas la tester, tu vas l'utiliser, et effectivement, tu vas voir que, par exemple, chez une femme qui souffre d'endométriose, au moment le plus inflammatoire, effectivement, du cycle, la chilée, lorsqu'elle est d'excellente qualité, elle va permettre d'enlever cette sensation de tension et de lourdeur dans cette zone. Mais en fait, même tout ceci, c'est très réductionniste parce que tu vas définir une plante par rapport à toi, ta propre progression et ton propre chemin. Donc moi, j'ai un biais. Moi, je suis biaisé sur toutes les plantes dont je parle et que j'ai utilisées, parce que ce biais, c'est ma propre expérience. Mais je ne peux parler que de ça, si tu veux. Et régulièrement, on va venir me dire, oui, d'accord, mais du coup, l'angélique, tu l'as positionnée comme une plante qui améliore l'efficacité digestive d'une manière remarquable, mais moi, je l'ai utilisée dans tel ou tel contexte, ça marche super bien. Et voilà, merci de ce partage, merci de ce retour. Moi, je ne peux pas aussi bien en parler parce que je ne l'ai pas testé dans ce contexte, mais elle peut faire ça aussi. Ou diaphorétique, tu vois, il y a des termes, oui, c'est quoi diaphorétique? Qui fait transpirer pendant une fièvre. Bon, après, quand tu testes, effectivement, tu vois des plantes qui permettent vraiment à la sueur de sortir à la personne fiévreuse de transpirer d'une manière abondante. Et là encore, ça fait des moments un petit peu eureka parce que peut-être tu as testé, on t'avait dit que la menthe poivrée était diaphorétique, bon, ok. Et après, tu as testé la fleur de sureau et là, tu t'es dit, waouh, ah ouais, d'accord, là, je vois ce que ça veut dire diaphorétique. Donc, pour moi, la fleur de sureau, à partir de maintenant, d'accord, elle est diurétique, elle est ci, elle est ça, mais diaphorétique, ah ouais, parce que je le vois maintenant et je vais garder cette indication-là.
Mais alors, en tant que thérapeute, alors quand on se soigne soi-même, ok, ton expérience et les effets que tu observes sur toi bon, bah, ça va te permettre de faire un peu le tri. Mais du coup, quand on est thérapeute, c'est pas évident, parce que si les réactions d'une personne à une autre sont différentes, comment on oriente ?
Je réagis un peu sur le terme thérapeute qu'on n'a pas le droit d'utiliser, hein, c'est réservé à la profession médicale. Donc nous, on n'est pas thérapeute, on est praticien. Heureusement, il y a quand même un fil conducteur au travers de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une partie très prévisible dans le sens où la camomille matricaire va en général calmer les inflammations digestives sur la plupart des personnes qui l'utilisent. Parfois, ça va pas vraiment fonctionner, donc on va tester autre chose. Et parfois, on va avoir des réactions à la limite contraires, opposées à ce qu'on attendait. Ça aussi, ça arrive. Des personnes qui vont être excitées par une plante qui a un profil très calmant, ou qui vont avoir un reflux gastro-œsophagien pour une plante qui est supposée vraiment adoucir et calmer l'inflammation digestive. Donc ça reste quand même à la marge. Maintenant, il y a des propriétés que je regarde pas. Par exemple, la plante est diurétique. Oui, mais d'accord, mais 98% des plantes vont être diurétiques. Donc est-ce que je vais retenir que telle ou telle plante voilà, cette propriété-là? Pas forcément, c'est pas ça qui va m'intéresser, à moins que ce soit une diurétique vraiment remarquable, comme la feuille de pissenlit, ou enfin voilà. Donc, c'est un travail qui prend des années, mais qui est accessible à tous en fait. Donc moi, ce que je veux pas faire aujourd'hui, c'est faire peur, parce que tel les gens m'écoutent et se disent « Oh là là, ouais, mais d'accord, mais moi je peux pas faire ça, c'est vachement compliqué ». Si, 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 c'est à la portée de tous à différentes échelles. Et donc, il faut pas se fermer des portes, et justement, même si ce sont des petites révélations, comme utiliser une pincée de feuilles de camomille, de mélisse fraîche dans sa tisane pour calmer un état d'anxiété, génial.
Et puis, ce que je trouve très bien dans tes contenus, c'est que tu aides quand même beaucoup à faire le tri là-dedans et à s'orienter, parce que par exemple, dans une de tes vidéos, tu parlais de la roquette sauvage et tu disais, bon, dans les propriétés qui sont souvent citées, on dit qu'elle est astringente. Ok, mais que toi, ce que tu as observé, c'est qu'il y avait d'autres plantes qui l'étaient beaucoup plus efficacement, comme le noisetier ou le géranium herbe à Robert. Et donc, tu aides aussi, toi, même si y a plein de plantes qui ont un peu des effets de base qu'on retrouve un peu partout, à dire lesquelles sont quand même les plus efficaces, les plus remarquables sur certains bienfaits. Et d'autres ont ce bienfait dans la liste, mais c'est moins pour ça qu'on va les utiliser. Je trouve que ce tri-là, il est super intéressant.
Merci, j'essaye.
Sur ton site, on trouve aussi donc des centaines de fiches plantes très très documentées. Comment est-ce que tu as fait pour compiler toutes ces infos? Est-ce que tout est testé personnellement? Tu cites aussi souvent des sources, que ce soit des sources scientifiques, des sources de botanistes, avec notamment Paul-Victor Fournier, un botaniste du 19e siècle, je crois, qui revient souvent. Voilà, comment est-ce que tu récupères toutes ces infos pour nous les
Alors c'est pas tout testé, hein. Dans chaque fiche de plante, j'essaie d'apporter mon expérience personnelle, mais vu que mon objectif c'est aussi de fournir une fiche complète, il y a des choses que j'aurais pas testé. Parfois je mentionne le fait que cette partie là je la connais pas, parfois je mentionne pas parce que ça me paraît évident, peut-être par rapport à la littérature et à l'expérience. Mais quand je dresse une fiche de plante, bon, là j'ai mon bureau, tu le vois pas, il est assez grand, mais chaque fois que je travaille sur une nouvelle plante, il y a des livres partout. J'ai des dizaines de marque-pages que j'insère un petit peu de partout dans ces livres. J'ai une bibliothèque assez importante. Dans cette pièce, il y a 1, 2, 3. J'ai 4 meubles pour mes livres et j'en ai encore dans d'autres pièces. Donc, mais tu vois, au final, j'ai mes grands classiques, les Valnet, les Fournier, les Leclerc, les Weiss. Des gens que j'appelle, moi, les mamies et les papis de la phytothérapie, qui ont capturé une telle substantifique moelle autour des plantes que j'y reviens encore et encore, parce que je sais que ce sont des gens qui ont vraiment pratiqué sur le terrain. Mais j'en ai plein d'autres. Voilà, j'essaie d'apporter aussi l'aspect cueillette, l'aspect pratique. Donc ça, c'est d'autres auteurs, souvent. Faut aller voir chez d'autres auteurs, des gens qui connaissent bien la cueillette, comme Thierry Thévenin ou d'autres. Donc tu vois, j'ai mes auteurs et mes ouvrages favoris pour différentes parties de la réflexion. Je vais aussi passer des heures et des heures dans les bases de données de recherche, parce que ça m'intéresse, mais parce qu'aussi au fil des années, j'ai trouvé des pépites d'informations vraiment super utiles, pour des plantes qui n'auraient jamais été positionnées comme ça dans la tradition, on n'y aurait pas pensé de cette manière. Et puis là, il y a eu une étude, tu vois, sur l'utilisation de telles plantes pour tels problèmes. Voilà, il y a quelques années, j'en parle de temps en temps, mais je suis tombé sur des études sur l'aubépine pour la mucoviscidose. Alors, ça ne soigne pas la mucoviscidose, malheureusement, j'aimerais bien vous dire que si, mais avec des résultats vraiment intéressants qui m'ont permis après de trouver qu'il y avait des groupes de travail dans certains pays, de parents qui travaillaient avec leurs médecins et leurs enfants, donnant de l'aubépine pour la mucoviscidose avec telle et telle amélioration. Donc ça, si la science ne nous avait pas donné ça, je pense qu'on n'aurait jamais trouvé, tu vois, ces pistes-là. Donc je veux pas... Voilà, j'aime bien combiner de science et tradition, deux sources vraiment intéressantes.
Et toi, à titre personnel, j'imagine que tu testes certaines choses aussi sur toi.
Mais constamment.
Tu es ton petit labo de...
Constamment, moi, famille, amis, bon, après, avec mes clients, bien sûr, c'est d'une manière beaucoup plus prudente et mesurée, dans le sens où quand tu travailles sur toi ou tes proches, tu peux te permettre certaines libertés. Après, il y a une éthique du travail, bien sûr, qui consiste à dire que, voilà, on parle toujours du sujet de la femme enceinte, parce que personne n'ose se mouiller, et malheur à celui qui dira que oui, tu peux prendre telle ou telle plante pendant la grossesse, parce que le risque légal est énorme.
Bah, comme pour les médicaments, c'est déconseillé surtout.
Ouais, c'est ça. Alors après, comme je dis toujours, si, quand ma femme était enceinte, si elle avait eu besoin de tel ou tel accompagnement, je n'aurais pas hésité à lui parler de telle plante. Maintenant, de là à dire à quelqu'un que je ne connais pas, allez-y, utilisez, tu vois, ça, l'éthique du travail ne me permet pas de faire ça.
Ok, alors justement, parlons un peu utilisation, usage des plantes. On parle souvent de l'utilisation classique sous forme d'infusion, de tisane. Alors, tu nous disais tout à l'heure que c'était peut-être pas le cas aussi fort dans des pays comme les États-Unis, mais en tout cas en France, c'est quand même un peu le grand classique. Est-ce que c'est une forme d'utilisation qui marche pour toutes les plantes et pour tous les maux globalement? Est-ce que, tu vois, quand on débute, c'est un peu la forme d'utilisation de la plante la plus accessible et vers laquelle on peut se tourner sans trop de doute?
Pour toutes les plantes, pas forcément. Tu vas toujours tirer quelque chose avec de la macération dans de l'eau. Tu vas toujours tirer un petit peu, au minimum, d'actif, si tu veux. Après, pour certaines plantes, c'est vrai que c'est pas le solvant idéal, mais ça va fonctionner pour la plupart des plantes et pour la plupart des équilibres et des situations. Souvent, ce qu'on a, la problématique qu'on doit incorporer, nous, dans nos conseils, c'est autour de la logistique, numéro un, et numéro deux, du goût, dans le sens où on essaie de faire des mélanges qui ont un goût, voilà, correct, acceptable. Parfois, c'est quand même pas très bon. Et souvent, nous, on recommande minimum 2 à 3 tasses par jour, et on monte souvent au litre. Le litre, c'est classique. Donc, un litre, ça fait 4 tasses, ça commence à faire un petit peu. Parfois, il y a des personnes qui te disent « Ah ouais, mais du coup, je bosse, mais il faut tout le temps que j'aille aux toilettes. » Et puis, les infusions froides, j'aime pas trop les boire froids. Donc, prendre un thermos, c'est pas possible. Enfin, voilà, des fois, il y a des limites logistiques qui font qu'on va se dire « Bon, ok, allez, on va faire la version liquide ou même parfois la version poudre ou gélule. Hein, » voilà, il faut s'adapter aux contraintes de terrain. Mais je dois dire que dans la grande majorité des cas, les gens avec qui j'ai travaillé étaient tout à fait ouverts à cette forme. Pour certaines applications, je dirais même que c'est une forme qui est meilleure que les autres. Pour accompagner une condition hivernale, par exemple, une infection hivernale, je trouve que la forme infusion chaude, ça apporte un confort en plus. Pour tout ce qui est dépuratif, pour tout ce qui est problème urinaire, bien sûr, le fait de boire ce liquide crée un effet de chasse. Et donc, voyez, les situations, c'est même mieux de faire la version infusion dès qu'on veut éliminer, drainer, nettoyer, c'est toujours mieux. Et puis, il y a des situations où, oui, effectivement, si je veux prendre... on rentre dans des scénarios un petit peu plus obscurs, mais peut-être du lycope pour un problème d'hyperthyroïdie qui tu vas utiliser à faible dose, donc, et tu sais que c'est plutôt mieux extrait dans l'alcool pour certains constituants, et le fait qu'en infusion, c'est tout simplement infect, bon, tu vas passer aux alcoolatures et aux teintures, etc., etc. Donc, voilà. Mais je dirais, la plupart des cas, l'infusion reste tout à fait adaptée à ce qu'on veut faire.
Ok, et justement là, comme on est au milieu de l'automne et l'hiver arrive, bon, même si les températures sont très douces encore, mais quelles sont les plantes médicinales là, sauvages ou cultivées qu'on peut récolter là en ce moment et utiliser peut-être dans une infusion préventive pour être en forme?
Ben, ça va un petit peu dépendre des régions et puis aussi du climat, parce que là, on a vu qu'avec un été qui a été tellement chaud, on ne retrouve pas exactement la flore habituelle. Il y a pas mal de choses qui ne sont plus disponibles. Moi, c'est une période où j'aime bien aller ramasser du thym et commencer à consommer des infusions de thym, parce que d'abord, c'est une plante de ma région. Je suis en Provence, c'est une très bonne anti-infectieuse, légèrement stimulante de l'immunité. Et pour moi, qui ai une faiblesse pulmonaire, par exemple, parce que il y a des années, j'ai eu une bronchite mal soignée, donc qui m'a laissé une petite faiblesse de ce côté-là. Le thym, c'est un grand protecteur des bronches. Après, j'ai mes petits mélanges favoris. Moi, j'aime beaucoup le rhizome de gingembre frais. Donc, c'est quelque chose que j'intègre souvent dans mes mélanges. Donc, je vais me faire une pincée de feuilles de thym. Après, je vais râper un petit peu de rhizome frais. Et puis, je me fais mes tisanes là. Il fait encore un peu chaud, mais dès que je vois que ça commence à se refroidir, tu vois, je vais avoir mes quelques mélanges. J'aime bien ramasser un petit peu de plantain et de lierre terrestre aussi. Là, tu vois, là, au jardin, mon lierre terrestre est magnifique. Alors, pourquoi je dis au jardin ici chez moi? Parce que ça souffre un peu du chaud, donc moi, je la mets au jardin. Mais dans certaines régions, voilà, ça rampe de partout. Tu vas pouvoir te faire une belle cueillette. Là, c'est pareil, protection.
Tu les utilises secs ou frais hein?
Moi, je préfère frais le lierre terrestre parce que c'est vrai qu'il y a cette partie aromatique un peu fragile. Et quand tu le fais sécher, tu vas quand même perdre un petit peu et même parfois beaucoup. Donc, mais voilà, si c'est séché d'une manière respectueuse et puis si c'est consommé dans les mois qui suivent, si tu veux, on va toujours retrouver une belle infusion. Après, en fait, c'est marrant parce que pendant des années, moi, j'ai eu l'impression d'essayer de crier à qui voulait l'entendre, de dire « Eh oh, on a les plantes, c'est vraiment super !» pour pas mal de déséquilibres. Et personne ne prêtait l'oreille. Et puis là, j'ai l'impression qu'en l'espace de 2 ans, deux, 3 ans, on s'est laissé complètement dépasser par la situation, de telle manière que maintenant, on dit « Wow, wow, wow !» Alors, attendez, on va peut-être se calmer, parce que à ma connaissance, il n'y a pas de carence en échinacée. Ou voilà, donc faut, il n'y a pas de raison d'en prendre tout le temps. Récemment, on m'a contacté c'était un article au sujet de l'entrée en saison hivernale, si tu veux, les transition automne-hiver, ou je ne sais plus si c'était automne, et on discutait justement de la nécessité de prendre des plantes adaptogènes pour ces changements de saison. Et moi, j'expliquais que pas du tout. Je veux dire, c'est pas. On est censé gérer les changements de saison, mais sans aucun problème. Alors, sauf si je suis dans un état délabré, stressé, qu'on passe au jour froid et que je sais que je vais me choper un truc. Mais on n'a pas besoin de prendre des plantes adaptogènes aux changements de saison. C'est pas un stress, quoi. On ne va pas prendre des plantes immunostimulantes si on n'est pas fatigué, en manque de vitalité, ou peut-être. Si l'hiver dernier s'est bien passé, il n'y a pas de raison d'aller commencer à prendre des échinacées ou d'autres, tu vois. Après, moi, j'ai une approche très pragmatique. Moi, l'hiver, j'agis dès que je vois que je commence à être vraiment fatigué, éreinté, perte de vitalité, peut-être lié à un stress ou pas. Donc là, parce que je me connais bien maintenant, je sais que j'ai 2-3 semaines où il faut que je me reprenne en main. Donc là, je vais un peu soutenir mes fonctions, hein, me renforcer. Et surtout réagir, me reposer un petit peu plus, essayer de ralentir, ça c'est encore plus important.
C'est intéressant cette approche, comme tu dis, pragmatique. On n'est pas obligé toujours de se stresser et d'anticiper le pire. Voilà,
voilà, les fameuses cures de printemps. Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est plutôt des cures au besoin lorsqu'on se sent dans ces états un petit peu engorgés, empâtés, tu vois, parce que ça fait suite à des abus peut-être. Ou avant l'hiver, on mangeait du cochon fumé et des céréales. Enfin, je caricature, hein, mais donc c'est vrai qu'on arrivait au premier jour du printemps. Bon, on avait besoin de faire un petit nettoyage. Aujourd'hui. On a une alimentation qui est tellement plus diversifiée. Moi, pendant tout l'hiver, voilà, c'est un petit peu une habitude de famille. On va ramasser des salades sauvages, donc on mange toujours pas mal de légumes. Moi, arrive le printemps, bon, je me sens pas forcément, si tu veux, engorgé, alors que d'autres périodes, peut-être que ça va être le cas.
Et qu'est-ce que tu mettrais dans ta petite herboristerie de base pour avoir l'essentiel pour faire face aux maux les plus courants?
Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à ça parce que mes placards, ça ne veut plus rien dire tellement il y a de choses.
Non, mais ton herboristerie imaginaire.
Ben, écoute, alors, et pour les maux d'hiver, bon, là encore, ça va être probablement dépendre des régions, mais moi, le thym, c'est l'une de mes principales, mais j'ai toujours un petit peu d'hysope, d'eucalyptus, de lierre terrestre. Si les bronches sont prises, c'est extrêmement important de bien se concentrer sur l'évacuation, production et évacuation du mucus, hein, se faire circuler les fluides. Donc, toutes les plantes pulmonaires. Après, c'est vrai que chez nous, il y a souvent eu, avec les enfants, des problèmes de toux sèche. Donc, j'ai toujours guimauve, j'ai toujours fleur de mauve, ouais, j'ai toujours réglisse, qui soulage beaucoup de ce point de vue-là. Donc, ça, c'est mes plantes de l'hiver. Après, j'aime bien les choses qui chauffent, parce que dans la tradition, quand tu as un coup de froid, tu vas réchauffer le corps. Donc, gingembre, un petit peu de tous les épices, cardamome. J'ai aussi de la teinture de piment que je prépare moi-même. Donc, tu fais macérer tes piments dans un alcool fort. Et après, 2-3 gouttes dans une infusion pour un petit peu réchauffer, faire circuler. Donc, ça, c'est dans mes placards. Pour les périodes où on a une baisse de vitalité, si on reste avec notre pharmacopée, moi, il y a deux grandes plantes que j'aime beaucoup. La première, c'est la gentiane. Et la deuxième, c'est l'angélique, archangélique. Mais voilà, on a vu d'autres apiacées aussi qui sont intéressantes d'un point de vue tonique, comme la berce. La berce, moi, je la connais beaucoup, beaucoup moins. Je connais mieux l'angélique. Ensuite, il y a les calmantes, bien sûr, pour les périodes de stress et d'anxiété. Donc moi il y en a une que j'adore parce que je l'ai connue aux États-Unis, qui est la scutellaire, différents types de scutellaire que j'ai au jardin, donc ça c'est excellent. J'aime beaucoup la camomille matricaire, la mélisse aussi, une infusion de mélisse fraîche au jardin, c'est juste un bonheur incroyable. Basilic sacré aussi, le tulsi qui se cultive, mais aussi bien qu'un basilic culinaire. Donc, tu peux en mettre partout au jardin. Et ça, c'est une bonne plante adaptogène, effectivement, pour ces périodes-là. Ah, dans les toniques, j'ai oublié le romarin. C'est une de mes préférées pour les périodes de fatigue, pour remonter un petit peu la vitalité. Et après, je compose, je m'amuse. J'aime bien garder les écorces d'agrumes, par exemple. Faire sécher mes peaux d'orange l'hiver, quand on mange des oranges. Je garde les peaux, je fais sécher. Je rajoute ça dans les infusions, donc tu vois, romarin, écorce d'orange.
Ça donne envie en plus.
Décoction de racines de pissenlit avec un petit peu d'orange amère ou même de citron, c'est super bon. Donc après, je m'amuse. Voilà.
D'accord. Et alors, si on n'a pas toutes ces plantes à portée de main chez soi ou en cueillette, où est-ce que tu conseilles de se les procurer?
Ouais, aujourd'hui, il y a une filière du métier là qui est en train de s'établir à plusieurs niveaux. On a tous les paysans producteurs, paysans herboristes qui vendent souvent en direct. On a des petites boutiques qui s'ouvrent un petit peu partout. On a des grosses boutiques. Alors bien sûr, comme toujours, il va falloir aller chercher là où la qualité se trouve, parce que voilà, dans certaines boutiques, ce sont des plantes qui viennent de grossistes, hein, d'Europe de l'Est, de Chine, donc les prix sont bas, mais la qualité peut se retrouver assez médiocre en fait. Alors où tu peux tomber sur des boutiques, des herboristeries qui font vraiment travailler nos producteurs locaux, qui favorisent le circuit court. Donc ça va dépendre.
Plutôt aller voir des petits producteurs si on trouve.
Moi, j'aime bien faire travailler les producteurs aujourd'hui. Ça me chagrine quand même un peu parce que je visite souvent des petites boutiques et je suis souvent contacté par des gens qui montent des boutiques et j'aimerais bien les faire travailler aussi. toute franchise. Par contre, souvent, la limitation, c'est que tu voulais 5 ou 6 plantes pour toi, ta problématique, ta condition, et ce producteur-là n'en a que 3 ou 4.
Et c'est ça.
Il n'a pas tout. Mm-mm. Voilà. C'est donc, tu peux trouver une petite boutique de qualité qui est près de chez toi, qui fait travailler plusieurs producteurs de circuits courts, mais du coup, qui peut t'offrir un bon catalogue. Et donc, j'aimerais aussi, idéalement, qu'on fasse travailler ces gens-là.
Ok. Alors, une dernière question, puis après, il y aura les 2 petites questions rituelles de la fin. On a pas mal de lecteurs, je sais, dans notre public qui s'intéressent aux études pour devenir justement herbaliste, herboriste. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, si on veut se reconvertir ou s'orienter dans cette voie ?
On peut se former en France ou on peut se former à l'international, dans le sens où si on parle anglais, on va trouver de très beaux programmes de qualité ailleurs. Nos amis québécois ont de très bons programmes, donc là encore, ça m'embête de prendre parti pour un modèle ou un autre. En fait, je vous dirai la chose suivante. Moi, c'est ça que j'ai toujours fait et aujourd'hui, je me forme toujours, c'est-à-dire que chaque année, je fais des programmes de formation. Moi, je vais à la personne. Je vais pas nécessairement au programme. Il y a des fois, c'est vrai qu'on a un petit peu un coup de foudre, même si c'est des personnes qu'on suit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, ou peut-être on a vu une présentation. Mais pour te donner un exemple, il y a une personne, moi, que j'adore aux États-Unis, qui s'appelle Tammy Sweet. Alors, bon, vous n'allez pas la connaître parce que vous n'êtes pas branché sur le monde américain, mais c'est une femme qui a bâti une grande expérience autour du cannabis thérapeutique. Donc, elle fait des formations sur la culture, la transformation, l'utilisation du cannabis thérapeutique. Alors, voilà, c'est autorisé aux États-Unis, donc elle peut se permettre de l'enseigner. Mais il y en a plein d'autres qui font des formations sur cette plante-là. Pourquoi j'ai choisi Tammy ? Parce qu'elle est rigolote, parce qu'elle... Elle a à la fois cet aspect scientifique et traditionnel, parce que quand j'écoute une vidéo d'une heure d'elle, elle me fait rire et j'ai l'impression d'avoir passé 5 minutes. Donc,
mais c'est un bon conseil, faire au feeling humain, quoi. Bon, bah, s'il y a des auditeurs ou auditrices qui ont un coup de cœur sur toi en t'écoutant, eh bien, ils auront tes formations.
Ouais, merci Laetitia pour le petit coup de...
Non, mais c'est vrai. Ouais. Et donc, on en vient à ta reco de livre, question piège qui t'a...
Question de livre. Tu vois, à ma droite, j'ai préparé une pile, d'abord parce que je n'ai pas pu choisir, et puis je me suis dit, en fonction de comment notre discussion va évoluer, je vais peut-être en choisir un ou un autre, et j'étais persuadé que l'intuition allait me venir, et puis finalement...
Oui, pas du tout. C'est pas forcément le meilleur, l'incontournable, quoi, c'est voilà, un conseil que tu donnes, tu vois... Plus un coup de cœur, justement, un feeling.
Me permets-tu de faire une exception et de parler de 2 ? Alors, écoute, le premier, il est ici. Il s'appelle Le chemin des herbes, de Thierry Temnin, avec des illustrations de Jackie Jousson. Alors, c'est un beau livre. C'est beau. D'abord, c'est beau, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la beauté, c'est important. Les aquarelles de Jackie Jousson sur les plantes médicinales, c'est juste magnifique. Thierry nous parle de plantes avec son amour des plantes. Enfin, récemment, j'étais dans une balade botanique menée par Thierry, et si j'avais pu passer 12 heures avec lui, je l'aurais fait. Ce sont des gens qui connaissent les plantes, qui vivent les plantes, qui pratiquent les plantes, qui passent leur amour des plantes. Et ben là, c'est comme je disais tout à l'heure, quoi. C'est moi, je suis le personnage aujourd'hui autant que ses écrits et les sujets dont il parle. Alors, c'est plein de conseils pratiques sur des parties qui manquent souvent dans les ouvrages, qui sont la récolte, la transformation, tu vois, cette partie-là. Souvent le manque, et puis là on a un paysan herboriste, donc il sait de quoi il parle. Il y a beaucoup de données sur l'utilisation traditionnelle, des données sur la science. C'est juste un bel ouvrage, et vous allez apprendre plein de choses. Et puis il y en a un autre, alors là c'est pareil, j'aurais pu en sortir plein d'autres aujourd'hui, mais j'avais envie de parler de celui-ci, de Gilles Corjon, Se soigner par les plantes, parce que alors bon, numéro 1, je connais bien Gilles parce qu'on enseigne ensemble à Lyon, mais numéro 2, parce que je reviens toujours à ce livre, je me dis, mais comment il arrivait à faire si simple pour un sujet qui est si vaste et si complexe. Ça, c'est un bouquin pour démarrer, parce qu'il y a des fiches de plantes et après, il y a des conseils assez complets pour tout un tas de déséquilibres de santé. Mais c'est à la fois simple, mais c'est à la richesse de l'expérience aussi. Et donc, arriver à faire ça dans un petit ouvrage compact qui est tellement pratique, là, on a du pratico-pratique. C'est-à-dire qu'on s'en sert tout le temps de ce type d'ouvrage.
Voilà. Génial. Et accessible à tous.
Accessible absolument, absolument à tous. Et voilà, que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, comme je disais, j'y ai pensé parce qu'on en parlait récemment avec une collègue. Et on se disait que c'était un excellent ouvrage à avoir vraiment sur ses étagères. Voilà.
Super. Pour terminer, ton petit conseil pour voir la vie en vert.
Jardiner. Jardinons, parce que moi, des fois, j'ai des envies de partir me perdre en nature, tu vois, littéralement d'aller vivre quelque part dans un trou perdu en montagne et plus rien voir, ni personne. Mais ça, c'est un peu un rêve, un fantasme. En pratique, on a tous nos vies, peut-être on habite dans des endroits plus ou moins industrialisés, on peut même habiter dans un appartement. Comment est-ce qu'on peut voir la vie en vert? On peut cultiver des plantes, qu'on soit au jardin ou sur le balcon. Et il y a cette magie de semer des graines, de voir germer, de voir la plantule se développer et de suivre tout son cycle de vie. Et arriver un moment où on va cueillir 2-3 fleurs et la mettre dans une tasse d'infusion, c'est juste, c'est beau. C'est beau. Même si c'est sur un balcon dans une grande ville, il y a un contact qui se crée, il y a une porte qui s'ouvre, c'est le départ de quelque chose. Et j'ai discuté avec tellement de gens aujourd'hui pour vous dire que, attention, parce que c'est un monde, si vous commencez à mettre le doigt dedans,
vous allez
vous faire avaler tout cru. Et c'est bien, et c'est tant mieux, parce que c'est un beau chemin de découverte de soi, de la nature.
Donc, jardiner, être d'accord avec toi.
ça devient un geste citoyen aujourd'hui de savoir cultiver un minimum pour l'alimentation et un minimum aussi pour ces problématiques de bien-être. Ouais.
Super, on est 100% alignés là-dessus. Écoute, merci beaucoup Christophe. On mettra donc les deux livres dont tu nous as parlé en description de l'épisode et puis bien sûr aussi le tien, le grand manuel pour fabriquer ces remèdes naturels. Qui nous a été chaudement recommandé par plusieurs personnes, dont Aurélie Valta, avec qui on a travaillé aussi sur certains numéros. Merci beaucoup pour toutes ces infos que tu nous as données lors du podcast et que tu transmets sur tous tes supports. Je te trouve très généreux dans ta transmission d'informations. Donc, merci beaucoup.
Eh bien, écoute, merci à toi de m'avoir invité, Laetitia. Un plaisir partagé, définitivement.
Super. Et puis, bonne continuation et à bientôt.
À bientôt.
La Voie Verte, c'est fini pour aujourd'hui. Vous retrouverez toutes les informations concernant l'épisode dans la barre de description et sur notre site www.vertmagazine.com, rubrique podcast. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous et à nous laisser un avis positif sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous souhaitez mettre un peu plus de vert dans votre vie, on ne peut que vous conseiller de vous abonner à Vert Magazine, le mag des néo-jardiniers. Tous les numéros et les abonnements sont disponibles sur Vert Magazine, veirmagazine.com. Merci et à bientôt.